Bonsoir. Plus d'une vingtaine de personnes atteintes du virus d'Ebola à Djera dans la province de l'Équateur ont été guéries. Affirmation du conseiller médical du ministre de la Santé dans une interview exclusive à Radio Capi mardi dernier. Cependant, Dr. Roland Chaudou déplore l'attitude de la communauté internationale qui afficherait peu d'enthousiasme face à ce fléau qui sévit aussi en RDC. Quelle lecture faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Mes invités sont Dr. Roland Lomami Chaudou, conseiller médical du ministre de la Santé publique. Dr. Chaudou, bonsoir.
Bonsoir.
Dr. Richard Mukalenge, spécialiste en santé publique. Dr. Mukalenge, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Ruffin Kibari, il est écrivain, il a publié un ouvrage intitulé « Le virus Ebola qui quitte, mythe, mystère ou réalité » et 15 ans après. Ruffin Kibari, bonsoir.
Bonsoir, Alain et vous.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plus d'une vingtaine de personnes atteintes du virus d'Ebola à Djera dans la province de l'Équateur ont été guéries. Affirmation du conseiller médical du ministre de la Santé dans une interview exclusive à Radio Capi mardi dernier. Dr. Roland Chaudou Lomami parle d'un total de 68 cas déjà enregistrés depuis le début de l'épidémie, dont 41 décès parmi lesquels 8 agents de santé. Tout en félicitant l'efficacité de la RDC dans la lutte contre cette épidémie, le conseiller médical du ministre de la Santé déplore le désintéressement de la communauté internationale face à ce fléau qui sévit aussi en RDC. On écoute Dr. Roland Lomami Chaudou, joint au téléphone par Michel Kifindangoy.
Nous avons guéri de 68 cas, vous soustrayez 41, vous avez 27 cas qui ont été traités par nos services et guéris. Nous avons à ce jour seulement 3 cas qui sont admis et qui sont encore en traitement. Le reste a été libéré. Évidemment, les problèmes ne sont pas d'acuité aussi forte chez nous parce que nous avons la maîtrise de la situation, parce que notre gouvernement national a mis de part à propre poche les moyens qu'il a fallu pour démarrer la riposte. Nous sommes un peu au regret de constater ce désintéressement de la communauté internationale vers l'épidémie qui s'est vue au Congo, mais notre pays, à lui tout seul, est en train de mener la riposte. Évidemment, je dois le dire, avec une grande participation des partenaires au développement, nous pensons que ce serait une erreur de désintéresser au Congo parce que nous avons la maîtrise de la lutte. La communauté internationale va certainement se raviser pour se retourner vers le Congo en sus des moyens que nous-mêmes avons mis à la disposition de cette lutte.
Docteur Roland Lomami Chaudou, vous êtes conseiller médical du ministre de la Santé publique. Commençons par cette bonne nouvelle. Plus d'une vingtaine de personnes atteintes du virus d'Ebola, Djera guéri, exactement 27. Vous en parliez dans le son que nous venons de suivre tout à l'heure. Quels traitements ont-ils subi?
Oui, comme je le dis tout le temps, ce traitement ici chez nous est encore à ce stade un traitement symptomatique. Symptomatique parce que nous traitons les symptômes que présentent nos patients. Mais je le dis toujours, le succès que nous avons à Djera sur ces patients tient au fait que nous les avons recherchés et enregistrés précocement. Et donc, ils ont été pris en charge très bien, mais surtout pris en charge précocement. Ce traitement permet donc que nous puissions aller au-devant de la surintoxication qui serait le produit d'une toxémie importante suite du fait que ces personnes sont atteintes de ce virus Ebola. Et donc notre traitement parvient à aller au-delà de cette dégradation des organes vitaux et donc parvenons à sauver certains patients que nous admettons.
Et donc, en termes simples, docteur, est-ce qu'on peut comparer ce traitement à celui qu'avait reçu le médecin, l'infirmière américaine?
Il est comparable au point du nursing. Du nursing, c'est-à-dire qu'au point de l'administration des soins et du suivi du patient, du monitoring des patients. Mais quant aux produits actifs utilisés, les produits expérimentaux qui sont maintenant d'usage dans les pays occidentaux et même un peu en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas se comparer parce qu'en fait, ce que ces produits font dans l'organe, c'est une immunisation. C'est une immunisation par des antigènes qui sont destinés seulement à annihiler le virus Ebola et ses différentes composantes. Nous ne sommes pas encore là. Nous avions fait ça en expérimental en 1995 à Kikwiti, mais nous ne sommes pas encore déterminés à aller vers ces procédures parce que les nôtres sont encore pas tellement raffinées autant que le sont les sérothérapies qu'utilisent les gens en Occident. Et que donc, nous sommes encore en train de prendre nos personnes, nos patients, selon les mêmes méthodes que nous avons utilisées pendant les autres épidémies. Mais rappelez-vous, Son Excellence le ministre de la Santé l'a si bien dit, nous avons la technique, nous avons la technologie qui puisse faire ça, pas d'autant raffinée qu'en Europe, et nous ne nous permettons pas d'y aller encore parce que nous savons qu'elle est encore un peu faite dans un sens qui ne nous satisfait pas nous-mêmes parce qu'elle n'est pas tellement appropriée. Mais si nous étions en face d'une mortalité massive, Monsieur le ministre l'a dit, nous n'aurions pas d'autre recours que d'aller vers cette procédure de traitement que nous connaissons très bien.
Alors docteur, j'aimerais que ce soit vraiment clair dans la tête de nos auditeurs et internautes qui nous suivent, parce que nous avons reçu beaucoup de questions à ce sujet. Vous dites que le traitement administré à Djera est symptomatique. Oui. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? En termes simples, pour que les auditeurs comprennent bien.
En termes simples, c'est-à-dire qu'une personne atteinte de virus Ebola, qui serait par exemple au point d'avoir une hépatite du fait de l'intoxication par ce virus, serait prévenue d'arriver à ce stade-là par le traitement qu'il reçoit chez nous. Et nous traiterions par exemple sa diarrhée, on traiterait par exemple son déficit rénal et ainsi de suite. Et ça nous permet de le maintenir en vie et de garder ses organes vitaux sains, si on peut parler ainsi, avant qu'ils ne se dégradent du fait de l'intoxication. Parce qu'en fait, c'est la toxémie dégagée du virus qui mène vers la mort de patients. En fait, ça détruit les organes vitaux.
Et donc, il faut éviter toute confusion. Il n'y a pas un vaccin spécial ou un médicament spécial qui est utilisé en RDC à Djera.
Nous n'avons pas encore reçu, parce que nous l'avons demandé, mais pas encore reçu, les sérothérapies qui sont administrées actuellement en Europe. Je l'ai très bien dit, il n'y a pas un vaccin contre Ebola. Le seul vaccin que nous pouvons préconiser, c'est le comportement de tous envers du genre se maintenir propre, avoir l'hygiène et éviter le contact avec l'animal qui est infecté.
Et donc, ces personnes sont totalement guéries?
Parce que nous ne sortons de centre de traitement Ebola que des gens qui, au début, étaient positifs au test de laboratoire et présentement, au moment de la sortie, un test négatif. Évidemment, il ne sort pas le même jour que le test devient négatif, on l'observe encore quelques jours, mais souvent, quand le test est négatif, un jour après, et si la personne a un statut qui permet un déchargement, eh bien, la personne sera déchargée.
Et c'est dans ce cas que se trouvent les 27 personnes dont vous avez parlé.
Il y a une nuance, monsieur Alain. Il faut nuancer maintenant, parce que nous avons discuté de cela dans le comité national de coordination. Nous avons nuancé. C'est dans la létalité brute, générale, que nous avons, à ce jour, ce n'est plus 27, ils sont 28. De ces 28, nous avons compté, avec notre base de données, il y a 12 de ces 28 qui ont eu un test positif à l'entrée. Et qui en sont ressortis, il y a plutôt 14 qui ont eu un test positif à l'entrée et qui en sont ressortis avec un test négatif. Et alors ils sont déchargés. Ça fait que quand on prend la mortalité brutale, disons brute, nous avons ces 27 personnes qui en sortent. Mais de ces 27, il y a 14 d'entre eux qui ont eu un test positif au moment de l'admission et qui, après l'évolution, le traitement reçu, sont sortis avec un test négatif. Ces gens-là sont remis dans la nature et vont à leurs propres occupations. Donc nous partons d'une mentalité générale des gens que nous avons eu à soigner parce que atteints du virus Ebola ou virus connexe, mais présentant une maladie, et ceux qui sortent avec des spécifiques parce que tous n'ont pas eu de test positif.
Alors, à ce jour, docteur Chaudou, quel est le bilan par rapport au bilan? Le bilan a-t-il évolué? A-t-il régressé? Quel est le véritable bilan aujourd'hui?
Le bilan aujourd'hui, comme je vous ai dit la fois passée, nous recevons nos données au jour le jour. Au 24 septembre, donc hier, la situation était celle-ci. Nous avions au total 70 cas enregistrés. Ce sont des cas cumulés depuis le début de l'épidémie, comme vous savez, que nous avons déclaré le 24 août. De ces 70 cas déclarés, nous avons eu 42 décès. À la date du 24 septembre, nous avons eu au total 42 décès, ce qui donne une létalité générale de 60%. Vous voyez, là, nous sommes encore à une létalité générale. Mais ensuite, nous devons spécifier parmi les morts qui ont eu un test de laboratoire au début et qui l'ont eu après. Là, nous descendons. Parmi les 42 décédés, nous avons compté que 16 d'entre eux ont eu un test de laboratoire positif. Et vous comptez, vous allez trouver que de ces 16 qui ont eu un test positif au départ, nous avons des survivants qui sont au nombre de 14. Et ça fait 50% de positivité.
Docteur Richard Moukalenye, vous êtes spécialiste en santé publique. Vous venez de suivre Docteur Chaudou concernant ces personnes qui sont guéries, les traitements. Quel est votre commentaire?
Bien, merci pour la parole. Mon commentaire est celui-ci. Ebola n'est pas une fatalité, c'est une maladie comme toute autre, qui arrive, qui crée la panique dans la communauté, dans les milieux scientifiques, etc. Et lorsque on a maintenant la maîtrise de la conduite des soins, on ne peut qu'avoir les résultats que M. le conseiller vient de présenter. Donc, il arrive dans ce genre de problème que le corps humain réagit vers le positif. Au départ de la prise en charge qui est faite, et surtout si, sur le plan psychologique, le malade est remonté. Le malade, on l'enfonce pas. Ok? Si il trouve qu'il y a un encadrement adéquat, il y a aussi des résultats comme ce que M. le conseiller vient de présenter. Vous savez que lorsqu'il y a un problème de santé chez quelqu'un, le malade lui-même a en lui le résultat de la guérison. Il a, dans sa psychologie, il apporte aussi quelque chose de lui-même. Ok? On a fait, comme M. le conseiller vient de le dire, la thérapie tout autour de tout ce qui était symptomatologie. C'est-à-dire quand il y a la fièvre, on soigne la fièvre. Quand il y a la diarrhée, on soigne la diarrhée, etc. Mais ce qui est chez le malade, c'est plus que le médicament. Et ce qui est chez le malade vient de l'encadrement qu'il reçoit.
De l'environnement aussi.
Oh, bien sûr, c'est ça. Donc le malade apporte en lui aussi le potentiel de guérison. Il a ça. C'est pourquoi nous avons ces genres de résultats. Voilà. Donc en dehors de l'alimentation et de médicaments, il y a aussi l'alimentation. L'alimentation apporte aussi quelque chose de positif. C'est le commentaire que je peux donner en gros.
Alors, il y a un quotidien quinois qui a, je crois que Dr Chaudou, je lui donnerai la parole pour qu'il réponde aussi, il y a un quotidien quinois qui affirme, en attribuant ça au ministre de la Santé, qu'il y aurait des problèmes avec la quarantaine, la mise en quarantaine qui s'est passée, qui a eu lieu à Djerra, entraînant une crise alimentaire au point que les populations commencent à se débrouiller autrement pour trouver à manger.
Oui,
cela n'était-il pas prévisible?
Dans quel sens, quand on dit mise en quarantaine, je ne sais pas si la population n'avait pas dans les cases ou dans les maisons des stocks alimentaires, si la population n'allait plus...
Ce n'est pas toujours évident.
Oui, si la population ne prenait pas aussi ce que nous appelons les aliments, le produit alimentaire de proximité, parce que tout autour des maisons, il y a aussi le petit jardin qu'on peut faire pour avoir les légumes, etc. On fait aussi l'élevage de poules, coqs, canards, cannes, etc. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait des preuves pour affirmer qu'il y avait crise alimentaire, carence alimentaire, etc. Parce que je ne sais pas si Ebola a empêché les gens de cueillir le régime de bananes, par exemple. Je ne sais pas si Ebola a empêché les gens de prendre derrière la maison peut-être la canne à sucre ou bien l'ananas. Je ne sais pas. Il faut que ces gens soient clairs. Moi, je pense que lorsque on met en quarantaine un milieu pour empêcher qu'une épidémie puisse aller au-delà de ce milieu, par exemple Djera, je crois que on n'affame pas la communauté. Ok, la communauté sait comment elle peut se débrouiller avec ce qu'elle a planté autour des cases, etc.
Alors, docteur Richard, quand docteur Chaudou parle du désintéressement de la communauté internationale face à la situation qui sévit en RDC, comment vous l'analysez?
Bon, le désintéressement, je crois, c'est un monsieur qui travaille dans un bureau de haut niveau au ministère de la Santé publique. Il a les indicateurs de ce désintéressement. Ok? Je crois que la communauté internationale n'a pas répondu aux appels du gouvernement par le ministère de la Santé publique. Je crois à ses propos à lui. Je crois à ce qu'il a dit. Parce qu'il a les indicateurs qu'il peut brandir pour dire, nous avons dit ceci, les autres n'ont pas fait cela. Ok? Voilà. Donc, il a les indicateurs. Je crois, s'il est présent, ok, les auditeurs comme moi-même ici à ses côtés, nous serons à mesure de dire, voilà, il y a eu désintéressement. Voilà. À mon niveau, je n'ai pas d'éléments pour dire que il y a eu désintéressement, mais j'ai foi en ses paroles, tout ce qu'il a dit. Moi, je crois à ça parce que c'est un officiel de haut niveau dans le cabinet du ministre de la Santé publique.
Nous allons prendre pour vous, docteur Richard, cette question qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Docteur Kiyata Wandanda Jean-Paul, je vous appelle à partir de Lubumbashi. Nous disons bravo au gouvernement Matata pour les efforts consentis en vue de maîtriser cette maladie. Mais mon inquiétude se situe au niveau de la déclaration du conseiller médical du ministre de la Santé publique. Quel est l'enthousiasme qu'il attendait de la communauté internationale? Quand on sait très bien que nous ne manquons pas le moyen de notre politique sanitaire, parce que nous venons de démontrer à cette communauté internationale. Voilà que je compare cette réaction à celle d'un monsieur qui, après avoir obtenu son diplôme, se plaint auprès de son père de ne s'être pas investi dans son cursus.
Réaction, docteur Richard, la RDC, avec tous les efforts consentis, doit-elle encore pleurnicher, comme dit cet auditeur?
Oui, je crois que la RDC n'a pas pleurniché. Je viens de dire que, monsieur le conseiller, mon confrère docteur Chaudou, a les indicateurs. Il a les éléments de la demande peut-être du gouvernement à l'endroit de la communauté internationale pour résoudre ce problème d'Ebola et peut-être pour voir un peu plus loin. Lui, il a les indicateurs, il a les éléments. Il n'a pas pleurniché. Il a dit ce que lui connaît. Vous savez, lorsqu'on est malade, même vous-même, monsieur Alain, vous êtes au lit, vous faites votre malaria, je crois. Une petite salutation par deux ou trois visiteurs remonte quand même le moral. Et lorsque vous n'avez pas ça, ça peut enfoncer le malade. Le Congo n'a pas pleurniché. Le Congo a présenté, je crois, monsieur le conseiller peut l'affirmer, peut-être un cahier de charges pour résoudre le problème et peut-être pour voir encore plus loin si le problème arriver à déborder Boende. C'est ça le problème, je crois. Mais lui, il a les éléments pour le présenter. Mais je crois, lorsqu'on pense aller au-delà d'une petite solution pour envisager peut-être en amont ce qui peut être grand problème en dehors du petit coin de Djera, je crois qu'on n'a pas mal agi.
Voilà. Et on lui donnera l'occasion de répondre aussi tout à l'heure. Ruffin Kibari, vous êtes écrivain, vous avez publié un ouvrage intitulé « Le virus Ebola qui quitte, mythe, mystère ou réalité » 15 ans après. Ruffin Kibari, comment vous analysez la déclaration du conseil médical du ministre de la Santé que nous avons suivie? Ruffin Kibari? Ruffin Kibari, voilà, décidément, on l'a perdu. Nous allons prendre pour vous, docteur Chaudou, également cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, au Katanga.
Placide Mutombo, je vous appelle de Lubumbashi, au Katanga. Il est vrai que la communauté internationale peut nous venir en aide pour faire face à ce fléau qu'est Ebola. Mais quand les conseillers du ministre affirment dans les émissions précédentes que la RDC s'en sort mieux par rapport à d'autres pays africains frappés par le même fléau, n'est-ce pas là une contradiction? Je crois pour prévenir la résurgence d'Ebola, le gouvernement congolais doit allouer un budget conséquent au ministère de la Santé, contrairement au budget insignifiant qu'on lui accorde jusque-là.
Docteur Soudou, vous êtes pris par vos propres mots.
Je ne suis pas du tout pris, je continue à le dire. Ce que j'appelle désintéressement, c'est que nous ne sommes pas la cible, nous ne sommes pas ciblés sur le financement annoncé par les grandes puissances. Vous voyez ce que les Américains ont annoncé, destination Afrique de l'Ouest, ce que la France a annoncé, destination Afrique de l'Ouest, la Guinée ou le Sénégal, je ne sais plus, ce que l'Union Européenne a annoncé, excusez-moi, pareil, aucun de ces bailleurs de fonds donne une destination des fonds, cite le Congo comme étant une destination finale de certains de ces fonds financés. Alors je me dis...
Et pourquoi pas, à votre avis?
J'arrive pas à comprendre. Je l'ai dit l'autre jour, c'est que je comprends. Ils se disent le Congo a Ebola, le Congo maîtrise Ebola, le Congo a mis les moyens propres, donc ils n'ont pas besoin. C'est vrai, nous avons mis nos moyens propres, notre cahier de charge a été présenté au gouvernement de la République, nous avons reçu les moyens que nous attendions de ce gouvernement, et le gouvernement nous accompagne, c'est vrai. Mais dans la solution, je veux dire durable, nous sommes le réservoir principal de Ebola. Ça a commencé par ici, et ça nous revient de façon cyclique. Nous devons pouvoir arriver à réfléchir à long terme sur les solutions définitives avec Ebola, en termes de formation des agents, setup ou de fixation d'établissement de laboratoires qui puissent permettre un diagnostic rapide pour un traitement rapide en réponse. Mais cela ne nous est pas destiné. Tout va en Afrique de l'Ouest comme si...
Et donc, jusque-là, la RDC n'a reçu aucun financement.
Nous avons, je l'ai dit, il ne faut pas que les gens occultent ce que j'ai dit, en interne, tous nos partenaires, y compris les Nations Unies, nous ont financés, nous ont secourus. Nous travaillons avec eux sur la réponse et nous sommes avec eux sur le terrain. En interne, tous les partenaires, OMS, UNICEF, MONUSCO, PAM, UNFPA, vous en citez, CDC, Atlanta.
Mais qu'est-ce que vous attendez de plus?
Non, nous recevons ce que nous avons en interne, mais les fonds, les gros fonds qui sont annoncés ne nous sont pas destinés, nous n'avons pas accès à ces gros fonds, et c'est déplorable.
Voilà, la réalisation me signale que Ruffin Kibari est en ligne. Ruffin Kibari, vous nous suivez?
Oui, je vous suis.
Voilà, je rappelle que vous êtes écrivain, vous avez publié un ouvrage intitulé « Le virus Ebola qui quitte mythe, mystère ou réalité » 15 ans après, Ruffin Kibari. Comment vous analysez l'évolution de la lutte contre Ebola à ce jour en RDC?
Oui, merci beaucoup Alain. Bon, pour d'abord répondre à ce que vous aviez dit, que la communauté internationale s'est un peu désintéressée du Congo, en ce qui concerne la fièvre hémorragique à Djera, moi je pense que c'est un motif de fierté pour nous les Congolais. Nous ne devons pas tellement nous plaindre, crier, pleurer au sujet de cette communauté internationale. Parce que nous avons l'expertise nécessaire. Le Congo a l'expertise nécessaire en matière de lutte contre Ebola. Nous avons des gens qui ont lutté à partir de l'expérience de Kikwit, le professeur Mbimbe, c'est lui la référence actuelle dans ce domaine de la lutte contre Ebola. Donc la communauté, je pense que si la communauté internationale se focalise plus vers les pays de l'Ouest, c'est parce qu'elle sait que le Congo, avec toute la série des épidémies qu'on a connues, le Congo, à partir de l'expérience de Kikwit de 1995, est capable de maîtriser cette épidémie de GRA. D'ailleurs, si nous regardons de 1995 jusqu'à aujourd'hui, le taux de mortalité ou de létalité des malades d'Ebola est en décroissance. Cela signifie que nous avons la maîtrise par rapport aux autres pays. Donc la communauté internationale pense que le Congo a grandi. Moi je pense que sur le plan de l'expertise, le Congo a l'expertise nécessaire. Donc nous devons être fiers, nous ne devons pas pleurer du fait qu'on nous a rejetés. Peut-être qu'il se pose le problème matériel. Mais sinon, en ce qui concerne la lutte même, le Congo sait se défendre à partir de l'expérience des différentes épidémies que nous avons connues.
Mais Ruffin Kibari, à ce sujet, vous avez suivi Dr Chaudou, qui affirme que les gros fonds que reçoivent les pays d'Afrique de l'Ouest, dans ces fonds-là, la RDC n'est pas citée. Donc, vous pensez qu'à part l'expertise, la RDC peut se suffire?
Oui, bon, quand vous voyez que les pays de l'Ouest reçoivent des gros fonds, vous devez voir d'abord la nature de ces pays-là. Prenons l'exemple de la Sierra Leone ou du Libéria. Ce sont des pays qui ont de bonnes relations historiques avec, par exemple, les États-Unis d'Amérique. Alors, si on accorde beaucoup de fonds à ces pays-là, c'est pour les États-Unis, par exemple, ou les pays occidentaux, c'est pour se protéger. Ils pensent que avec les immigrants, la maladie peut facilement arriver aux États-Unis, arriver en France ou en Angleterre. Donc, et puis, ils savent aussi que ces pays-là n'ont pas l'expérience dans la lutte contre Ebola. C'est pour cela que les fonds sont alloués là-bas pour éradiquer cette épidémie. Donc, c'est question de l'ampleur de l'épidémie si on nous néglige. Parce qu'ils savent que nous sommes déjà préparés, nous avons déjà connu Ebola, et que ce pays-là, c'est la première fois, et qu'il y a beaucoup de morts, il faut vite intervenir là-bas. Et puis, je peux dire aussi, c'est notre diplomatie aussi qui ne marche pas tout à fait en matière des épidémies. Parce que comment ces pays reçoivent des gros fonds et nous ne recevons rien?
Voilà, Ruffin Kibari, à cette réaction qui nous vient d'Afrique du Sud pour vous.
C'est Josaphat Kazimoto depuis le banc de l'Afrique du Sud. Nous félicitons le gouvernement et toute l'équipe sanitaire en particulier. Le gouvernement doit avoir, à mon avis, une politique de prévoyance, en fait, de résoudre à tous les désastres ou fléaux pouvant se présenter dans toutes les tranches du pays, et surtout dans les cas d'Ebola qui n'est pas dans son premier forfait. Donc, nous devons compter sur nos propres efforts au lieu de nous acquitter à la communauté internationale.
Alors, insistons, mettons un accent, Ruffin Kibari, sur l'aspect sensibilisation. Vous êtes à Kikwit, comment ça se passe là-bas? Est-ce que la population est suffisamment sensibilisée par rapport à cette épidémie?
Oui, merci beaucoup, parce que dernièrement ici, il y a cela un jour, nous venons de suivre des séances de formation, des remises à niveau, avec le docteur Luc, qui est le représentant de l'OMS dans la province de Bamdoundou, et le MIP qui est là aussi, et le docteur Kipasa qui est le médecin inspecteur urbain. Et là, on a réuni le comité de lutte en matière d'Ebola parce que Kikwit a connu cette épidémie et nous devons nous préparer du fait que les réservoirs aussi à Kikwit, cette épidémie Ebola n'est pas connue. Donc nous craignons une résurgence aussi de cette maladie. Donc il y a eu cette conférence qui nous a mis à jour. Et on a rappelé, durant cette conférence, l'historique d'Ebola, les mesures à prendre, la sensibilisation, comment nous devons sensibiliser la population. Parce que nous aussi, à Kikwit, nous avons un grand problème. Le grand problème à Kikwit, c'est les mentalités vis-à-vis de la manière de consommer les gibiers. Parce que, jusque-là, certains animaux sont suspectés comme réservoirs potentiels d'Ebola, comme la chauve-souris. Et à Kikwit, beaucoup de gens mangent la chauve-souris. Et on devrait aussi sensibiliser la population qui est rentrée dans les vieilles habitudes en ce qui concerne le traitement des malades et des morts. Les morts, on les lave encore à Kikwit. Et on les transporte même en main. Et ça, c'est grave. Des jeunes enfants qui transportent les cadavres sur une distance à peu près de 2 ou 3 kilomètres et des cadavres qui passent même 2 à 3 jours. Donc, ne vous en faites pas, malgré que Kikwit a connu l'épidémie. Mais nous devons encore faire face à ces anciennes mentalités qui reviennent encore.
Vous venez de parler d'une conférence à laquelle vous avez assisté, Ruffin Kibari, et si on comprend, c'est que c'est au niveau d'une certaine classe intellectuelle que le message passe, mais au niveau de la base de la population, vraiment à la base, le message ne passe pas.
Non, au niveau de la base, le message, nous le donnons. Nous avons l'avantage à Kikwit d'avoir plusieurs radios. D'ailleurs, je tiens à vous dire, avant Ebola 95, il n'y avait pas de radio à Kikwit. Maintenant, nous avons plusieurs radios communautaires. Mais le message passe aux radios, dans les églises. Mais vous savez que l'Africain est toujours têtu. L'Africain est toujours attaché à ses coutumes. C'est ça le problème que nous devons vaincre. Parce que la lutte contre Ebola est une question
des mentalités. Donc si on ne réussit pas à vaincre les mentalités, nous ne réussirons pas. Ebola n'a pas de médicaments, n'a pas de vaccins, comme on le reconnaît. Donc maintenant, il faut que les gens acceptent les mesures contraignantes d'hygiène. Alors c'est ça qui est très difficile.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé jeudi dernier l'établissement d'une mission sanitaire d'urgence des Nations Unies pour stopper l'épidémie d'Ebola. C'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York consacrée à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Margaret Chan, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, et David Nabarro, le coordonnateur du système des Nations Unies dans la lutte contre Ebola, y étaient présents. Jean-Pierre Amazani.
Ban Ki-moon a, dans son discours devant le Conseil de sécurité, annoncé l'établissement d'une mission sanitaire d'urgence des Nations Unies, combinant la perspective stratégique de l'Organisation mondiale de la santé et de solides moyens logistiques et opérationnels. Il a précisé que cette mission internationale, qui s'appellera Mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, aura 5 priorités, à savoir stopper l'épidémie, traiter les personnes infectées, assurer les services essentiels, préserver la stabilité et prévenir de nouvelles flambées épidémiques. Notre objectif est d'avoir les premiers éléments de la mission sur le terrain avant la fin du mois, a ajouté le secrétaire général. Le Conseil de sécurité a, au cours de cette réunion, adopté une résolution à l'unanimité dans laquelle il encourage les gouvernements libériens, sierra-léonais et guinéens à accélérer la mise sur pied des mécanismes nationaux qui permettent de diagnostiquer rapidement l'infection et d'isoler les cas suspects. Les membres du Conseil se sont inquiétés des effets préjudiciables que l'isolement a sur les pays touchés du fait des restrictions en matière de commerce qui leur ont été imposées et ont invité les États membres, y compris ceux de la région, à lever ces restrictions. New York, Jean-Pierre Amissi Ramazani, la radio des Nations Unies.
Docteur Richard Mukalenye, on le disait la semaine passée, le Conseil de sécurité, c'est assez rare qu'il se réunisse sur des questions de santé. Okay. Et là, c'était Ebola, et donc ça devient une question de sécurité internationale. Il sera mis sur pied la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Pour vous, qu'est-ce que ça représente?
Oui, ça représente une alerte. Une alerte, pourquoi? Parce que les gens se posent la question, même le Conseil de sécurité par le secrétaire général des Nations Unies, si la pandémie de ce siècle commençant ne sera pas Ebola. C'est ça la question. C'est ainsi que la fois passée j'avais dit, en prenant aussi ce que vient de déclarer monsieur le conseiller docteur Chodou, j'avais dit que Ebola n'est pas seulement cette maladie qui tue, mais Ebola aussi c'est une richesse nationale brute qu'on doit exploiter.
Comment ça?
C'est-à-dire, tout le monde parle de lutter contre la flambée des épidémies de demain. Est-ce que chez nous ici, on ne peut pas faire de Yamboukou un centre de recherche contre les viroses à Ebola? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour créer ce que moi je dis de l'écotourisme scientifique? Ebola, c'est notre produit national. C'est notre richesse. Nous en sommes le réservoir. On ne peut pas fermer les yeux. Nous avons droit à réclamer qu'on y monte, donc on monte à Yamboukou, un laboratoire de lutte contre Ebola. Sinon, Ebola va se répandre à travers le monde entier. Ça, c'est un. Deuxièmement, Ebola tue rapidement. Rares sont les malades qui guérissent. Donc, c'est une alerte générale qu'il faut prendre au sérieux. Mais nous qui sommes les dépositaires d'Ebola, parce que monsieur le conseiller vient de dire, nous en sommes le réservoir. Nous devons aussi réclamer que nous ayons, sur le plan interne, un grand laboratoire à Yamboukou pour que Ebola ne nous échappe pas par rapport au contrôle de cette maladie. C'est ça le grand problème. Qui peut parler d'Ebola plus que nous, parce que nous sommes frappés 7 fois. Maintenant, c'est la 7e épidémie. Qui? C'est nous. Mais maintenant, est-ce qu'on doit nous négliger? On doit nous mettre à côté? Ça, non. Nous sommes une richesse naturelle qui regorge beaucoup de gibier et nous ne savons pas jusque maintenant qui est le réservoir naturel de ce virus. Nous devons nous préparer.
Mais est-ce que de votre point de vue, docteur Richard, la RDC communique-t-elle convenablement pour, comme on dit, vendre un peu, se vendre, vendre sa situation, faire connaître sa situation sur l'échiquier international?
Mais je crois oui, parce que j'ai appris de votre radio, par votre bouche, que nos experts qui étaient en Afrique de l'Ouest revenaient parce que nous avons Ebola ici. Comment ils sont partis en Afrique de l'Ouest si notre rayonnement ne s'arrêtait qu'au niveau du Congo? C'est-à-dire le rayonnement du Congo est allé au-delà de ses frontières. Ok? C'est ça. Donc, si nos experts sont arrivés en Sierra Leone, sont arrivés en Guinée, etc., c'est parce que le monde entier connaît la place du Congo dans la lutte contre cette maladie virale qui tue et qui est d'origine animale.
Docteur Chaudou, je parlais tout à l'heure d'un quotidien quinois qui citait le ministre de la Santé, affirme qu'il y aurait deux nouveaux cas positifs confirmés à Bokongo, un secteur non loin de Djera. Est-ce que vous le confirmez?
Oui, je le confirme, c'est ce que je disais la fois passée, que cette épidémie est évolutive et chaque jour a son lot de surprises. Effectivement, nous avons été surpris avec ces deux cas qui sont testés positifs. Mais ça vient d'une contrée de Djera que nous avons toujours redoutée, parce que difficile d'accès, très difficile d'accès, et qui n'a pas été prise en charge rapidement par nos équipes, étant donné que c'était assez loin de l'épicentre d'Okulia. Mais nous redoutions que nous aurions des problèmes là-bas. Et le premier à redouter était justement M. le ministre de la Santé, qui, c'est l'essence, avait tout le temps demandé que les équipes se préoccupent un peu de ces deux régions, Bokungu et la zone de Wema jouxtant l'Okulia. Justement, on a eu des cas par là, et vous vous rappelez, je vous avais dit autrefois que la population de Burundi avait pris de force un corps et l'ont manipulé de par eux-mêmes. Ce coin aussi donne des préoccupations pour nous et nos équipes s'y attellent. Donc, on a effectivement ces deux nouveaux cas qui... Mais si vous me permettez, monsieur Alain, je voudrais revenir sur la quarantaine qui poserait des problèmes alimentaires. Nous avons prévu qu'il y avait des problèmes alimentaires à Djera, effectivement. Mais nous avons pris des précautions pour y amener des aliments vivres frais et autres et distribuer ces vivres frais à la population. Je pense qu'il y a question ici d'habitude alimentaire, parce que ce que nous amenons de Kinshasa n'est pas nécessairement ce que les gens consomment habituellement, et ça pose des problèmes. Si vous me permettez encore, je voudrais dire une chose. Ce que nous faisons ici, n'oubliez pas qu'ici au Congo, nous avons eu le premier d'entre nous, c'est le président de la République, qui a demandé que, en plus de soigner, en plus de s'attaquer à Ebola, que nous puissions ouvrir la recherche sur Ebola dans ce pays, et que le gouvernement du Congo, de notre pays, était prêt à financer. Je peux vous dire, question de nous vendre au dehors de notre pays. Mon ministre a parcouru pratiquement toute l'Afrique pour parler Ebola à ses pairs, parce qu'il a été invité à parler Ebola et les moyens de lutte que nous avons mis en place chez nous. Et, il est pour l'instant à New York et son agenda est principalement chargé des réunions sur Ebola. Donc je veux vous dire que monsieur le professeur Mouyamé, qui est pour l'instant aujourd'hui l'expert international, est appelé et il a des rendez-vous chargés en Europe pour parler d'Ebola. Donc nous nous vendons très bien.
Et donc aujourd'hui, par rapport à la situation sur terrain, il est difficile d'affirmer que l'épidémie est en voie d'être maîtrisée en un mot.
Nous avons la certitude que nous la maîtrisons très bien, mais les surprises ne manquent pas, nous ne maîtrisons pas les surprises, mais nous travaillons contre ces surprises.
Ruffin Kibari, on venait tout à l'heure de parler de la réunion du Conseil de sécurité, de la mobilisation sur le plan international. Comment vous percevez toutes ces actions?
Bon, ce sont des très bonnes actions, parce que nous devons savoir que Ebola n'a pas de passeport. Donc, l'Ebola peut se transmettre en quelques jours, en quelques minutes, dans les États à travers le monde. Donc, si nous ne faisons pas attention, Ebola risque de devenir une pandémie. Et nous devons voir aussi que si la communauté internationale se mobilise contre Ebola, c'est d'abord pour qu'elle se protège elle-même. Donc, nous, les Africains, c'est après. D'abord, c'est leur intérêt. Donc, ils veulent d'abord se protéger parce qu'ils savent que s'ils ne mettent pas fin à Ebola, à l'épicentre, c'est-à-dire à l'endroit où l'épidémie a commencé, cette maladie va atteindre leur pays. Donc c'est tout cela, vous voyez, qui se mobilise. Et donc d'abord, l'intérêt, leur propre protection. Donc c'est une bonne chose, mais nous devons savoir que
en voulant nous protéger, mais eux, ainsi de suite, pour se protéger eux-mêmes. Mais ce que je dirais, c'est que ceci, qu'on n'attende pas l'apparition des épidémies pour mener la lutte. Par exemple, dans notre pays, après les sirops, on a dormi jusqu'à présent. Maintenant, il y a eu résurgence, mais on se met à se préparer contre Ebola. Non, Ebola doit être une préoccupation quotidienne dans notre pays. Hein, qu'on se prépare, qu'on informe. C'est pour ça que moi j'ai proposé, une dernière fois, au ministre de la Santé, nous devons accélérer la sensibilisation dans les écoles. À l'époque coloniale, par exemple, ici à Kikwit, le père jésuite avait mis dans le programme d'hygiène la maladie du sommeil qui sévissait ici. Donc, qu'on puisse aussi mettre dans le programme des écoles, à l'école primaire, à l'école secondaire, pas seulement dans les écoles médicales ou à l'université, à la médecine, des notions élémentaires sur Ebola.
Alors, Ruffin Kibari, dans votre précédente intervention, vous parliez des mentalités africaines qui, selon vous, ont la peau dure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre ça?
Oui, ce que nous devons faire, c'est renforcer la sensibilisation. Parler toujours d'Ebola. Parce que, vous savez, la mentalité, l'Africain est ancré dans ses mentalités. Et c'est difficile que l'Africain se détache des mentalités pour d'autres mentalités, même ici en ville. Parce que moi, je vous dis, ici à Kikwit, on lave encore les morts. Mais il faut tout faire. Donc, renforcer les sensibilisations, montrer les images, montrer les dangers, et puis renforcer aussi les infrastructures. Par exemple, aujourd'hui à Kikwit, si on lave les morts, c'est parce qu'on pleure les morts à la cité. Nous avons une morgue ici à Kikwit qui ne fonctionne pas. Donc, il faut renforcer les infrastructures. Il faut que l'État édicte les lois sur la manière de traiter les morts.
Voilà. Et il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Ruffin Kibari, il faut renforcer la lutte, accélérer la sensibilisation jusque dans les écoles. En plus de ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels conseils vous pouvez donner aux autorités qui vous suivent en ce moment en guise de conclusion?
Que les autorités n'attendent pas l'apparition d'une épidémie pour mobiliser les ressources. Que Ebola soit quelque chose de la lutte quotidienne. Et puis qu'on puisse tenir compte des gens de Kikwit. Souvent, quand on lutte contre Ebola, les gens de Kikwit qui ont une grande expérience, c'est parce qu'à Kikwit, en 95, on avait démystifié Ebola, mais les gens de Kikwit ne sont jamais invités pour participer à la lutte. Donc on tient compte des gens de Kikwit chaque fois quand il y a Ebola, dans notre pays ou à l'extérieur.
Docteur Richard, il faut inscrire Ebola au programme scolaire. Est-ce envisageable?
C'est envisageable parce que l'information transforme les comportements. Quand on ne donne pas l'information, je crois on va rester en deçà de ce que l'ABC, par exemple, de la lutte contre Ebola exige. Il faut donner l'information. Mais il ne faut pas rester au niveau des écoles. Moi, je suis déçu par rapport au comportement des corporations. En principe, les corporations telles que l'Ordre de médecins, la NIC, telles que l'Ordre de pharmaciens, devaient organiser aussi des rencontres de training anti-Ebola. Et pourquoi pas organiser des rencontres avec des entreprises qui peuvent apporter, comme on dit...
Sponsoriser.
Pas nécessairement sponsoriser, mais prévoir la lutte. Prévoir les intrants de lutte. Par exemple, vous avez vu, les gens sont dans les scaphandres médicalisés, mais on peut en fabriquer ici. Ok? L'Ordre de médecins, par exemple, pouvait aller vers la Fédération des entreprises pour demander s'il y a des entreprises qui peuvent en fabriquer ici.
Et en guise de conclusion, un mot?
Ebola n'est pas une fatalité, c'est une maladie comme toute autre. Si on s'organise, on peut vaincre Ebola.
Merci. Docteur Chodou, un mot en guise de conclusion.
Non, merci. Je voudrais rassurer les auditeurs. Nous avons un dispositif de communication qui est sur place et qui marche très bien. Nous sommes partout dans le pays et de toute la province, nous recevons des alertes qui sont bien informés sur Ebola. Peut-être pas suffisamment, mais nous y travaillons. Les gens qui ne sont pas oubliés, nous en avons même plus de 5 qui sont venus à mon bureau pour être recrutés et aller à Djira, donc on travaille. La communication marche bien, nous y travaillons.
Merci, messieurs. Fin de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de votre attention. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.